Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci d'écouter les programmes de Studio Kalungu. Il vient d'être à 17h. Le journal de ce mercredi 4 août 2021, c'est dans une présentation de Nafis Adom. Au sommaire, environ 80 000 candidats ont débuté ce matin les épreuves écrites du baccalauréat session 2021 au Niger, à suivre les impressions de quelques élèves après les premières épreuves. Des mesures sécuritaires ont été prises par les autorités de Koni pour sécuriser le village de Chetaou avec l'arrivée des déplacés nigériens qui fuient les kidnappeurs. Le préfet du département donne des précisions dans ce journal. Dans le magazine de cette édition, nous parlerons des défis à relever en matière de changement climatique pour la COP26 qui se tiendra cette année en Écosse. Début ce matin au Niger des épreuves écrites du baccalauréat session 2021. Ils sont au total à plus de 80 000 candidats, dont 37,39% des filles à concourir dans les différentes séries. Ces candidats sont repartis dans 197 centres sur l'ensemble du pays. Après les premières épreuves, ce matin, notre reporter a recueilli les impressions des candidats logés au CG25 de Niamey. On les écoute au micro de Evelyne Danzoubé.
On a commencé avec l'épreuve de français et personnellement j'ai traité le sujet de dissertation. Donc on s'est donné à fond quand même et on espère que ça va marcher. Avec la première épreuve déjà, pour moi c'était un peu facile et on espère que ça va continuer en ce sens. Personnellement le report n'a pas eu d'impact sur ma préparation en quelque sorte. Si on report c'est qu'on nous donne plus de temps encore pour nous préparer. Donc pour moi c'était nickel quoi.
Bon ça n'a pas été dur mais c'est bon. C'est compréhensible, il n'y a pas eu de perturbation. C'était calme.
En bref, en raison de la persistance du caractère pathogène et contagieux de la COVID-19, l'État du Niger a prorogé l'état d'urgence sanitaire sur l'ensemble du pays pour une durée de 3 mois à compter du 6 août 2021. La décision a été prise lors du Conseil des ministres du 2 août 2021, rapporte la télévision nationale. Par ailleurs, pour protéger les populations et leurs biens face à la menace terroriste, le Conseil a aussi décidé de proroger l'état d'urgence à compter du 2 août 2021. Pour une durée de 3 mois dans les régions de Diffa, Tawa et Tillabéri. Je vous le disais dans les titres, avec l'arrivée de plus de 4000 Nigérians fuyant les kidnappeurs de leur pays à Chetaou, un village de Koni, les autorités administratives de ce département ont pris des mesures le long de la frontière avec le Nigeria pour sécuriser le dit village. Abelele, préfet du département de Benin Koni, explique au micro de Asman Moussa Arzika.
Si toutefois ils ont définitivement quitté le lieu relativement à la situation d'insécurité qui prévaut là-bas et qu'ils viennent se réfugier chez nous, nous pouvons les accueillir et les placer quelque part comme à l'habitude et les entretenir jusqu'à ce que la situation redevienne normale. Mais s'il s'agit de venir passer la journée ou passer la nuit pour retourner, alors là, il y a question. Là-bas, ce sont des kidnappeurs qui les acculent. Tout celui qui a du bétail, il lui sera envoyé une adresse ou lui téléphoner pour lui indiquer qu'il aura une visite et qu'il sera kidnappé contre une rançon. Donc, tout peut advenir. Nous avons placé les forces de défense et de sécurité sur la frontière. Il y a des patrouilles qui sillonnent la zone. Il est instauré l'interdiction de circulation des véhicules à Chetaou pour s'assurer qui est rentré, d'où il vient, où il va, qu'est-ce qu'il est venu faire. De tous ces aspects, des rapports sont faits chaque jour.
Pendant ce temps, à Dankano, village situé dans la commune de Tibri, ils sont nombreux les déplacés qui possèdent des terres pour cultiver en cette période d'hivernage. Certains pères de famille ont la possibilité de construire une maison pour s'installer à court terme ou définitivement. Pour le chef du village, Moutari Rabiou, c'est la cohabitation paisible entre les deux communautés qui a créé cette situation. Il est au micro de Mohamed Maman.
Les réfugiés, nous vivons avec eux en parfaite harmonie. Il n'y a aucun problème entre nous. Près de 30 000 personnes bénéficient de cette aide alimentaire. Certains ont même eu des champs à cultiver. Cependant, ils ne sont pas nombreux, étant donné que nous-mêmes, nous n'avons pas assez d'espace cultivable. Et pas mal de réfugiés ont construit des habitats ici. Certains à titre de prêt et d'autres ont acheté de leurs propres fonds. En fait, cela veut dire que même si la paix est revenue, cela prouve qu'ils ont vécu en symbiose avec nous. Oui, certains veulent retourner, car même s'ils ont un habitat ici, ils n'ont pas de champs à cultiver pour avoir de quoi subsister. Oui, nous les aidons pour qu'ils puissent oublier les exactions qu'ils ont subies dans leur vie.
À Niamey, plusieurs citoyens s'accordent à reconnaître que la zone Bukochi est actuellement mieux sécurisée qu'avant. Selon le chef du quartier, cette accalmie retrouvée est l'œuvre de leur nouveau commissaire de police qui interpelle les malfrats et autres délinquants qui perturbent la quiétude des populations. Le chef du quartier Bukochi 3, Boubacar Seni, est au micro de Moussa Hassan.
Tous ceux qui critiquent les efforts de ce nouveau commissaire hébergent certainement des malfrats chez eux. Sinon, tous les honnêtes citoyens s'en félicitent. Actuellement, les habitants du quartier m'ont mandaté de lui adresser leur reconnaissance, car il répond à leurs sollicitations à n'importe quelle heure. Et Dieu merci, actuellement, il n'y a plus de dealer de drogue dans mon entité. Je ne sais pas ailleurs. Vraiment, nous n'avons jamais pensé avoir un commissaire aussi travailleur à Bukochi. Aussi, la population, à commencer par moi, le chef de quartier, collaborons avec lui. Il est d'ailleurs en contact permanent avec certains d'entre eux qui lui fournissent des renseignements utiles. Car si nous n'appuyons pas la police, comment peut-on venir à bout de ce banditisme? Certes, il y a des gens qui pensent que c'est en vendant la drogue que leurs enfants arrivent à les aider. Mais c'est faux. Aujourd'hui, Dieu merci, on peut vaquer tranquillement à ses occupations jusqu'à 6h du matin.
Voilà, c'est un problème grâce à comme ça.
La suite de ce journal, longue de 138 km, la route Zender-Tanout a été inaugurée hier par le président de la République. Ce tronçon a été financé par l'Union européenne à hauteur de 34 milliards de francs CFA. La réhabilitation de cette voie maillon de la route panafricaine transsaharienne va contribuer aux échanges commerciaux entre les pays du Maghreb et les pays au sud du Sahara. Denisa Elena, ambassadrice de l'Union européenne au Niger, que je vous propose d'écouter.
L'impact sur la vie des populations de ces 138 km de route est important. Facilité de déplacement, échanges économiques, potentiel de développement et d'emploi, notamment des jeunes, mais également accès aux services de base, accès aux administrations et aux autres services étatiques. C'est toute une revitalisation de la dynamique socio-économique locale, nationale et régionale. Mais également, comme on l'avait évoqué il y a 2 ans et demi de cela, l'enjeu de cette réalisation est aussi sa durabilité, c'est-à-dire la gouvernance inclusive et effective qui prend en compte le rôle et les intérêts de toutes les parties prenantes. Il s'agissait notamment du besoin de continuer et soutenir en tant que partenaire des réformes de l'entretien routier.
Des propos recueillis par Ali Keta. Le Niger a célébré hier 3 août la fête de l'indépendance couplée à la fête de plantation d'arbres, une occasion pour les Nigériens de planter des arbres pour lutter contre l'avancée du désert. Mais d'où vient cette idée de planter des arbres le jour de la fête de l'indépendance? Adam Idé, écrivain, explique au micro de Mokhtar Hamadou.
C'était à la veille de la proclamation de l'indépendance, le 2 août, qu'il y a eu une plantation d'arbres, ce qu'on appelait l'avenue de la liberté, le rond-point de la liberté à l'époque. Donc il y avait un arbre, c'était ça l'arbre de la liberté. Si mes souvenirs sont bons, je le dis, que c'est le ministre Maïd Mahmoudou, qui était ministre de l'économie rurale, qui a eu à planter cet arbre-là à la veille de la proclamation de l'indépendance. Et ça a continué comme ça. Et ça s'est développé jusqu'à la fin du régime de Diouré Amane. En 1975, le régime du CMS, avec Seyni Kounté, a changé le paradigme pour instituer une fête de l'arbre. Peut-être qu'il s'est rendu compte qu'il n'y avait pas réellement d'indépendance et qu'il faut faire quelque chose d'utile. Est-ce qu'on peut faire le bilan de tout ce qui a été planté? Moi, je me demande si ce n'est pas une espèce de folklore du moment. On plante et puis on laisse passer des choses. Aucun entretien, il n'y a pas de suivi, on ne sait pas ce qui s'est passé. Les arbres ne sont pas protégés. La plantation des arbres, c'est bien, mais les entretenir, comme on dit, c'est encore mieux.
Valorisons le Moringa pour améliorer l'économie locale était le thème retenu cette année au Niger pour la célébration de la fête de l'arbre hier 3 août. Une aubaine pour la région de Maradi, grande productrice de cette plante qui a plusieurs vertus médicinales, selon le directeur régional de l'environnement. Pour le colonel Hamadou Hamidou, la culture du Moringa peut booster l'économie de toute la région. Il est au micro de Mohamed Maman.
Vous savez, on ne peut pas aspirer la liberté quand on a faim. Voyez-vous, dans les foyers au Niger, et pas au Niger seulement. Moi, la dernière université que j'ai fréquentée se trouve au Bénin. Un jour, j'ai demandé au recteur pourquoi ici, ils plantent les moringa. Il m'a répondu en ces termes. Nous avons vu cela chez vous et vous consommez cette espèce. Et nous aussi, nous l'avons introduit dans notre alimentation. Et tenez-vous bien, aujourd'hui, ils font sa transformation. Et qui sait, peut-être qu'un jour, ils vont même inventer un produit que nous n'avons pas pu imaginer à faire. Il n'y a pas la liberté quand il y a la pauvreté. Et pourtant, avec le moringa, notre économie peut se développer. Il a beaucoup de vertus. Guérit l'ulcère, filtre le sang. Exemple, si devant votre concession, il y a de l'eau qui stagne, jetez du moringa là-dedans. L'eau va prendre la couleur de ce qu'on appelle la lame. Il peut guérir le cholestérol, peut guérir aussi le diabète. Il nettoie les voies sanguines et empêche la graisse de se stagner.
À Difa,
Alternative FM 99.4 MHz à Zender,
Gaskia FM 89.5 MHz à Maradi,
Saraunia FM 102.1 MHz à Kyoto,
Bonferé Fuma 99 MHz.
À présent, le magazine de ce journal, 6 ans après les accords de Paris à la conférence des parties des Nations Unies pour le climat à COP21 et à la veille de la COP26, les pays n'ont pas enregistré des avancées significatives dans la lutte contre le réchauffement climatique. Selon les experts, ce réchauffement risque d'atteindre 3 voire 4 degrés à l'avenir. Jeannette Rogan, ambassadrice régionale pour l'Afrique et le Moyen-Orient à la COP26 en Écosse cette année, explique au micro de Asman China.
En 2015, où nous avons lancé l'accord de Paris après la COP21, nous avons à ce moment là eu beaucoup d'objectifs. Par exemple, pour le réchauffement climatique, on avait un objectif de ne pas chauffer le climat plus que 1,5 degré depuis la période pré-industrielle. Mais la science maintenant dit que nous avons déjà expérimenté un réchauffement plus de 1 degré et que les choses continuent comme ils sont, nous aurons voir peut-être un réchauffement de entre 3 et 4 degrés. Donc ça, c'est trop. Donc je peux dire que nous avons fait quelque chose, mais pas assez.
Selon vous, qu'est-ce qui empêche d'instruire des avancées remarquables dans la lutte contre le réchauffement climatique?
Vraiment, c'est question de capacité et c'est question de ressources. Ici, par exemple, au Niger, on peut voir qu'il y a des questions de stabilité et sécurité. Il y a problème parce qu'il y a des populations qui se déplacent à cause ou des stabilités ou parce qu'ils n'ont pas le moyen de vivre à cause du changement de climat. Donc, les choses sont connectées. Les problèmes de sécurité, de problèmes dans la vie avec l'agriculture, la désertification, le climat, il y a un lien entre toutes ces choses. Donc, pour être capable de lutter contre le changement de climat, il faut aussi faire quelque chose pour la stabilisation, il faut faire quelque chose pour la sécurité, il faut être possible que les populations puissent vivre dans leur terrain.
Quels sont les défis sur lesquels cette COP26 doit s'épancher?
Chaque pays a décidé de prendre quelques mesures pour limiter l'émission des gaz à effet de serre, qui sont la raison pourquoi le climat se chauffe. 5 ans après COP21, nous allons faire un rapport, chacun d'entre nous. Là, ensemble, nous pouvons voir qu'est-ce que nous devons faire en plus, comment élever notre ambition au niveau national pour changer ça. Donc, on va discuter tout ça à COP26, voir les résultats de chaque pays. Il faut certainement faire beaucoup plus et il faut décider chacun d'entre nous que faire. La deuxième chose, et c'est certainement important pour la région africaine, ça c'est la question d'adaptation et résilience. Ici, le changement de climat est quelque chose qu'on peut voir dans la vie quotidienne. On peut voir dans l'agriculture. Nous avons la désertification, nous avons l'ensablement, nous avons des inondations, nous avons un décalage des pluies. Donc, il y a beaucoup de choses qui ont déjà changé. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? Il faut s'adapter.
Ce journal est à présent terminé, mais ne quittez surtout pas. Nos programmes se poursuivent avec les éditions d'information en langue nationale. Et juste après, à partir de 18h15, vous pourrez suivre le forum de Studio Kalungu qui a pour thème le rôle du cousinage à plaisanterie de la cohésion sociale et la consolidation de la paix au Niger. Il est présenté par Mustapha Mamansani.